Ok, Seigneur, bénis cette pensée maintenant, bénis cette message. Nous ne voulons pas être familiers avec ta parole. Demeure dans cette message, envoie cette message. Conduis-moi, s'il te plaît. Et on est un grand merci encore, Seigneur, que tu es toujours un Dieu qui parle, un Dieu qui écoute, un Dieu qui nous aime. Merci. Enseigne-nous ce soir. Merci de toucher Alan Vera. Ce soir, prends soin de lui. Aussi, bénis deux hommes, Damien et Tristan, s'il te plaît. Sauve ces deux jeunes et touche les contacts de l'évangélisation hier soir aussi. Particulièrement un jeune homme, un musulman. S'il te plaît, Seigneur, merci. Amen. Ok, j'ai préparé un message quelques semaines en arrière, mais ce n'était pas quelque chose que j'étais prêt à prêcher. Donc aujourd'hui, j'ai transformé le message un peu. Et première chose à dire, en Hébreux chapitre 11, et aussi abordé par Pierre en 1 Pierre chapitre 1 et chapitre 2. Nous sommes pèlerins, nous sommes des voyageurs, nous sommes, c'est rendu en français, étrangères. Voyageurs et étrangères. Donc, nous avons ce fameux livre de John Bunyan, Pilgrim's Progress, le voyage de pèlerin. Et c'est super parce que c'est un voyage dans la vie qui symbolise la marche chrétienne sur la terre et tous les pièges, toutes les choses qui peuvent passer dans une vie. Et, j'ai beaucoup aimé ce livre et aussi les films qui sont, qu'est-ce qu'on dit, les films qui sont réalisés. Et, mais ce soir, je vais juste vite aborder quelques versets et je vais cibler quelques mots précis. Dans le passage, Hébreux chapitre 11, on va lire un passage qui va parler un peu des héros de la foi. On parle en vue. Des héros de la foi. Et verset 13 à verset 16. Donc, verset 13 à 16, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les promesses, les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Car s'ils avaient en vue celle de d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ont désiré une meilleure, c'est-à-dire un céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, de ce passage, il y a des choses très intéressantes. Je loue la version seconde d'ici, mais je vais mettre la version seconde d'Arabie et King James devant mes yeux, sur mes yeux. La première chose, on peut dire, est les promesses obtenues. Ils n'ont pas reçu les accomplissements des promesses. Et le premier point, les promesses. Dieu a donné les promesses. C'est lui qui a donné. Ce n'est pas C'est pas à nous de dire, je vais promettre moi-même de manger quelque chose bien ou je vais promettre moi-même de gagner ma vie, un bon travail. Non, c'est que Dieu a choisi de donner des promesses pour chacun de nous, des promesses précieuses, grandes et précieuses. Est-ce que c'est en Jérémie 33, verset 3? Wow, je vais juste vite voir, juste pour confirmer. Non, ce n'est pas là que je cherche. Mais il va donner des promesses pour nos vies. Il a donné des promesses pour l'Église. Il donne les promesses précises pour nos vies aussi. Et certains sont déjà accomplis. Et certains, on doit attendre. Mais la chose que je voudrais dire est qu'Abraham, en Genèse chapitre 15, si je ne trompe pas, oui, c'est une alliance entre Dieu, le Seigneur, et Abraham. Et donc, Abraham était là, seul avec Dieu, avec certains animaux et certains oiseaux. Il a coupé les animaux en deux. Il a gardé les oiseaux parce qu'ils sont très petits. Mais il est séparé comme ça. Donc il y a une séparation, un petit chemin entre les deux côtés, les deux parties des animaux. Et lui, normalement, et je pense que c'était déjà enseigné par Pasteur Tex, et on a parlé de ça, que pour une alliance, il faut avoir deux parties, comme nous avons un contrat maintenant. Et dans un contrat, deux ou peut-être plus, chacun va signer pour indiquer qu'ils sont d'accord avec la terminologie utilisée, le contenu de la promesse, le contrat. Et comme signé comme ça, je suis d'accord. Et les deux sont également, normalement, ça dépend de le contrat, redevable. Donc, le deux doit garder le terme de le contrat. Et si quelqu'un sort de ça, il est redevable pour peut-être une pénalité. Donc, le deux garde le contrat entre eux. Mais ici, pour accomplir le but de la contrat, cette alliance, c'était seulement Dieu. Ce n'était pas Adam, Abraham. Pourquoi? Parce qu'en Genèse chapitre 15, Abraham, en fait, c'est bizarre, mais il a endormi. Ça veut dire Dieu a mis Abraham endormi, si je ne trompe pas. Comme Adam aussi. Adam, oui. Donc, en fait, comme ça. Donc, Abraham ne peut pas marcher avec Dieu parce que les deux dans cette alliance doivent marcher ensemble. Comme ça, entre les pièces des animaux, entre les deux côtés. Mais Abraham en train de dormir et Dieu marche. Ça veut dire une partie pour l'alliance doit accomplir tout. Et ça, c'est belle pour nous parce qu'il n'y a pas sur nous une obligation d'essayer de garder le contrat. Notre seule obligation est de faire confiance en Dieu. Donc, quand les gens pensent que c'est à nous de faire beaucoup de choses, et c'est clairement légaliste, une façon légaliste, il y a un poids sur nous. Ah, je dois. C'est comme nous avons dit samedi soir, les questions posées par Isabelle. Comment je peux être un bon témoin? Je veux avoir un bon témoignage. Comment je peux faire ça? Je n'arrive pas. Ce n'est pas le cas d'avoir un bon témoignage. C'est le cas de demander au Seigneur, je peux marcher, il peut m'aider dans ce domaine de ma vie. Et grâce à ma relation avec lui, ça dégage un bon témoignage. Parce que ce n'est pas la pression sur mes épaules d'accomplir quelque chose. C'est une relation que nous avons dit dimanche matin. Et dans la relation, La relation, on aime Dieu parce qu'il a premièrement nous aimé. Et on est avec son amour, on peut aimer lui et on peut aimer les autres. C'est comme pas une obligation. Ces commandements ne sont pas lourds pour nous. Si quelqu'un demande à moi de manger une bonne glace, ça ne va pas être un problème. Ça ne va pas être, ah, il faut que je fasse ça de nouveau. Non, je vais se régaler de faire ça. Et pour les commandements en Deutéronome 6, d'aimer Dieu avec tout notre cœur, notre âme, notre esprit, notre être, et de se régaler dans notre relation avec Dieu. Ce n'était pas quelque chose assez lourd, c'est juste un désir, une relation. Je ne compte pas mes obligations, je juste vis ça. Et donc, tout ce que je voudrais dire, c'est à Dieu d'accomplir les contrats. C'est le oui qui donne les promesses. Il dit à Christian, toi et ta famille, missionnaire, Sion, 2 ans. Tu peux dire, tu blagues, mais peut-être si le Seigneur donne une promesse, ce n'est pas à toi de dire, OK, je dois le faire, comme Sarah essaie d'accomplir la promesse donnée par Dieu pour elle. Non, c'est plutôt, je vais laisser le Seigneur de continuer d'accomplir ça. Et moi, ma responsabilité, marche par la foi avec lui. Marie garde en Hébreux chapitre 12, verset 2, et de regarder à lui et pas d'essayer de calculer comment il peut le faire. Parce qu'honnêtement, c'était d'eau de notre compréhension comment le Seigneur va accomplir les promesses. Quand il a donné Jérémie 29, 11, comme un rhéma pour moi de venir ici en Suisse, j'étais commencé à tourner dans un rond, d'imaginer comment c'est possible que je peux arriver en Suisse et de vivre en Suisse. Et lui, non, juste marche avec moi. C'est ça. Il va accomplir les promesses. Est-ce que je suis la première personne qui a donné une promesse? Non. Est-ce qu'il a donné des promesses à tous ces fameux croyants? En Hébreux chapitre 11. Oui, il a donné. Est-ce qu'il a donné une promesse à quelqu'un en train de courir sur une plage qui va avoir une future gloire avec le Seigneur? Oui, il a donné une promesse. Est-ce qu'il a donné des autres promesses? Est-ce qu'il a donné une promesse de quelqu'un qui va marier avec quelqu'un dans 8 ans? Ou je ne sais pas quoi. Mais Dieu a donné des promesses précises et des fois, ce n'est pas nous d'essayer de calculer comment le faire, on simplement croit. Je vais tourner un verset, Hébreux chapitre 6, verset 13, Hébreux 6, 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. C'est ça. Ça veut dire, tout c'est sur l'épaule de Dieu, c'est pas à nous. Ce n'est pas pour nous de faire des choses et ce n'est pas nous d'essayer de faire des choses. C'est simplement dire, OK, le Seigneur a promis quelque chose pour ma vie. Samuel, tu vas voir, je vais construire un héritage sûr et toujours pour toi, Samuel. David, tu es un homme après le cœur de Dieu. Tu vas et ton héritage, ton descendance va marcher avec moi, devant moi. Et l'accomplissement de cette promesse, David sur le trône, prince, pour aider le Seigneur dans l'époque du millénium. Donc, des promesses données qui vont être accomplies. Donc, promesse première. Vous, Hébreux chapitre c'est 11, verset 13, je pense. Je vais juste vérifier, c'est ça. Hébreux 11, verset 13. Oui, c'est comme Abraham, comme Moïse, comme je suis en train de regarder le loin. Ah, je vois, je ne vois pas dans un sens. Je ne vois pas avec mes propres yeux et ma propre nature. C'est pas possible. Est-ce que c'est possible? Je mets les lunettes de la foi. Ah, maintenant je vois. On voit et on ne voit pas. On voit aussi des choses accomplies dans le court terme. Les court termes. Psalm 27, verset 13. Psalm 27, verset 13. Wow. Dans le King James, je vais tomber dans les pommes, je vais perdre la force si je ne suis pas cru que je vois la bonté de Dieu, la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Si je ne vois pas ça, ta bonté, Seigneur, je vais comme ça. Je vais perdre le courage. Non, je vois que tu es vrai. Je vois que tu opérais. Je vois les témoignages des gens transformés. On voit des choses. Dieu est en train de travailler. Donc, dans un sens, on voit déjà certains accomplissements de choses. C'est vrai. Mais long terme, quelle est la chose? On ne voit pas maintenant, mais on voit un peu. Résurrection, enlèvement, glorification, une nouvelle cour, une nouvelle vie avec Dieu, Jérusalem en train de descendre. On voit un peu parce qu'on lit et on croit sur Dieu lui-même qui a dit ça. Ah, tu vas retourner pour chercher ton épouse. Tu vas retourner et on va voir le millénium. Il y a des choses qu'on voit, mais on ne voit pas. Et les autres en train de dire, mais comment c'est possible? On ne voit pas ces choses, on dit non. Mais si c'est possible, vous voulez vraiment voir que Dieu est là en train de travailler et on voit plus loin de ça. Galates, les Galates, ils ont vu Christ, ils ont compris que Christ était crucifié. Pour eux, c'est comme ils ont imaginé et vu, c'était vraiment pas la foi. Donc ils ont vu ça. Et après, c'était étonnant pour Paul que il peut détourner loin de la foi. Donc, voilà, première chose, on a vu des choses et on est en train de voir les accomplissements, bien sûr, de certaines promesses, certaines prophéties accomplies. 1948, Israël de nouveau, on voit une génération sur la terre et on attend, peut-être on pense, 80 ans après 1948, qu'est-ce qui va passer dans cette génération? Est-ce qu'une génération va être enlevée? On voit une terre promise, protégée contre les autres nations. On voit un peuple de nouveau en train de parler hébreu. Donc, on voit des choses, on a vu. Prochain point. Wow. On est convaincu. OK. Ça c'est pas dans le... Je vais retourner. Hop. Verset 13. Oui. C'était pas rendu dans le Dabini, le second, mais le mot existe. Persuadé, convaincu. C'est pethio dans le grec. On est pleinement persuadés, comme nous avons ici. Ils sont persuadés, convaincus de les promesses. Ils voient les choses et cette conviction va déclencher une confession. Pleinement persuadés, Romains chapitre 4, verset 21. Abraham. Verset 20, il ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant la gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi accomplir. Je suis convaincu que lui qui a commencé une bonne œuvre en moi va finir cette bonne œuvre. Parce qu'honnêtement, moi, quand je vois ma vie, je pense, Seigneur, ça va être un miracle que je vais arriver jusqu'au bout. On est plus, de plus en plus dans l'œuvre de, qu'est-ce qu'on dit? C'est une œuvre raffinée. C'est une œuvre raffinement, précis, fine-tuning, on dit en anglais. c'est Dieu, c'est pas des grandes choses dans nos vies maintenant. C'est des petites choses le Seigneur est en train de faire. C'est des petites choses. La maturité dans la foi chrétienne, c'est pas, oui, j'ai pas fait ça, mais cinq ans en arrière, j'ai fait des choses horribles qui sont pour nous plus grandes. Oui, j'ai un problème, j'ai toujours sauté, j'ai un problème avec l'argent, je boue beaucoup. Imagine les péchés grands, les gens voient. Mais vois les petites choses. Le colère qu'on est en train de conduire, frustration dans la cuisine, en train de, je ne sais pas, je cherche pour les exemples, mais les petites choses avec une motivation, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc le Seigneur dit, ah, c'est ça qui m'intéresse, jalousie, orgueil. Ah, tu es orgueilleux parce que tu es arrivé d'arriver d'une œuvre spirituelle, une attaque spirituelle. Tu es arrivé de ne pas accepter la tentation. Et maintenant, tu dis, waouh, pas mal. Pas mal, mais orgueil. Donc, les petites choses maintenant. Donc, et maintenant, on est convaincu. On est dit, OK, Seigneur, je vais ne bouge pas. Je suis convaincu pleinement de la chose que tu as promis, tu vas finir. Parce que moi, je n'arrive pas. Et en plus, en verset 20 de Romains chapitre 4, cette conviction va déclencher quelque chose. Je vais glorifier Dieu. En verset 20, donnant gloire à Dieu. Comment je donne gloire à Dieu? Quand je ne me donne pas, je donne pas la gloire à moi-même. Je prends pas la gloire à moi-même. Je dis, c'était pas possible pour moi de surmonter ce défi. Mais Christ, qui est plus grand et qui vit en moi, en Galates chapitre 2, verset 20, c'est pas moi. Et la personne dit, mais honnêtement, dans la preuve que vous avez surmontée, je suis étonné que tu n'as pas pété le plomb. Tu étais tellement calme. Oui, on était calme, mais c'était Christ. En moi, j'étais en paix. J'ai reçu une facture de les impôts qui dit il faut payer 18 000 euros. Mais j'étais calme et j'ai dit, OK, Seigneur, merci parce que tu es en contrôle. Ou tu imagines toutes les diversités des problèmes dans nos vies. Et voir la façon on peut comporter. Et on dit, c'est pas moi, c'est Christ. Quelqu'un dit, mais j'ai fait quelque chose tellement horrible et tu m'as pardonné. Et on dit, comme Corrie ten Boom, devant cette Nazi, après la Deuxième Guerre mondiale, quand il est venu, il est en train de parler en Allemagne, dans une salle, et il approche, il dit, tout ce que tu as parlé de le pardon et tout ça, c'est extraordinaire. Elle a dit, ah, je vois. Elle a discerné, c'était un nazi dans le camp de concentration à Ravensbrück qui était un des nazis probablement redevable pour le mort de sa sœur. Elle a dit, il a pris la main, mais c'est comme sa main était poussée comme ça. Elle a pris la main, elle a, dans ce moment, elle a dit, oui, c'est vrai, le pardon est possible. Elle a compris, elle peut pardonner quelqu'un qui a fait quelque chose tellement personnel. Et ça rend gloire à Dieu. Ce n'est pas les grandes choses, ce n'est pas comme un film, la musique, le crescendo, la musique, et le genre pleure, oh, comme ça, et c'est tellement théâtrique, et on pense, the crescendo, brrr, comme ça, et le genre arrive, et voilà, c'est, oh, il arrive de partir dans le couche du soleil, il voit les silhouettes de le genre marcher, voilà, c'était comme ça. Non, c'est des moments normaux que ces choses passent, et on est dit, gloire à Dieu. Donc, on ne cherche pas d'avoir un grand groupe de gens en train de regarder. C'était quelque chose fait discrètement, seul peut-être, mais Dieu a touché, on a dit gloire à Dieu. on était convaincus. Et parce que nous sommes convaincus, le prochain point suit. On va retourner à Hébreux chapitre 11 de nouveau. Confession. Nous avons une bonne confession. Helmut a donné une bonne confession hier pendant l'évangélisation. Cet homme s'appelle Adèle. Adèle est son nom, il est musulman. Il a donné une bonne confession, un bon témoignage. Donc, convaincus, et maintenant, parce que nous sommes convaincus, c'est lié en Romains chapitre 10. 10 verset 10 et 9. Si tu confesses de ta bouche, beaucoup aimé cette verset, c'est magnifique. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a te ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, c'est la meilleure part. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvenit à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvenit vient du salut, selon ce qui est dit l'Écriture. Donc, en fait, il y a une partie ici. Je crois avec le cœur et je confesse avec la bouche. Je ne peux pas confesser avec la bouche si je ne crois pas dans le cœur, parce que ça, c'est, on me dit, hypocrisie, en fait. Non, ce que je crois va sortir. Et comme Jacques a dit, si je crois, tu vas voir ma croissance. Tu vas voir ce que je crois par mes actes. Si on boit beaucoup d'eau, on va transpirer, particulièrement dans cette saison. Si on croit en Jésus, si on croit les choses qu'il fait, on va confesser. Ça va sortir de nous. C'est comme le psalmiste. Je ne vais pas garder pour moi-même dans la grande assemblée. Jérémie a dit la même chose. J'ai gardé les paroles de Dieu dans mon cœur. Mais mes os brûlent comme un feu en moi. Je dois ouvrir ma bouche, je dois parler. Je ne peux pas garder ça pour moi-même. Et c'est ça, la confession. Jésus a confessé la bonne confession devant Pilate. Et cette confession est en nous. C'est quelque chose, c'est un message. Ce n'est pas vraiment un « voilà, c'est quelque chose que j'ai fabriqué moi-même ». Non, la confession vient de ma conviction que si le Seigneur est bon, je peux vraiment goûter que le Seigneur est bon et je vais le faire. Et en plus de goûter, je vais manger et je vais dire aux autres, viens goûter parce que le Seigneur est vraiment bon. Donc, confession. Prochain point, cherchons, je vais retourner de nouveau dans le même verset, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 11, cherchons. C'était où? Verset 14. On cherche une patrie. Pourquoi qu'on cherche? Parce qu'on n'a pas trouvé. Et pour ces croyants de l'Ancien Testament, et pour nous aussi, c'est en beaucoup plus pour nous parce que l'Église, on n'est pas un pays pour nous sur la terre. Notre patrie est au ciel. Donc, la Suisse n'est pas notre patrie. La France, l'Argentine, l'Espagne, l'Angleterre, les îles britanniques, ce n'est pas notre patrie. Je retourne en Angleterre 3 ou 4 semaines en arrière, je dis, je ne peux jamais vivre ici de nouveau. Jamais. Je ne peux pas habiter là-bas. Je ne peux pas. Non, parce que mon cœur était transplanté de vivre ici. Et quand c'est le temps, le Seigneur dit, c'est temps pour partir. Mon cœur va être attaché à la Suisse, ça va être ailleurs. Parce que c'est une œuvre spirituel et supernaturel. On n'est pas attaché ici. Oui, mais mon âme est facilement attachée à la poussière. C'est vrai. parce que j'ai un ancien cœur et j'ai une ancienne nature et c'est toujours attiré les choses qui sont tellement bas. Mais en moi, j'ai un désir pour un pays et une patrie plus glorieux. Et donc, je peux chercher et je peux chercher et je peux chercher, mais je vais trouver. Ah. Quand on a mangé la meilleure pizza à Genève, il n'y a pas de substitut. Quand on a été touché, je parle de nourriture, mais c'est quelque chose à terre, c'est quelque chose de concret. Quand on a expérimenté que le Seigneur est bon, il n'y a aucun substitut. Regarde tous les concerts spirituels chrétiens sur YouTube si vous voulez, mais si nous avons une rencontre personnelle, ouin par le Seigneur, avec lui, il n'y a rien de plus. Un moment avec lui, il n'y a pas de substitut, pas de substitution. Et qu'on peut chercher, continue de chercher. Je comprends pourquoi un chrétien rétrograde peut essayer de goûter toutes les choses. Il retourne, il parle de l'Église, ou parle, en fait, son cœur est beaucoup plus loin déjà, mais c'est juste une continuation logique. Quand il parle d'une église, il est déjà loin. Et d'essayer de toucher les autres choses, de chercher des choses dans le monde. Il ne va jamais remplir cette vide parce que cette vide seulement Dieu peut remplir. Et si nous avons accepté Christ, cette vide reste. On ne peut pas remplir ça. Donc, cherche. Pour nous, on ne va jamais être satisfait par les autres choses maintenant. De plus en plus on marche avec lui, le plus seulement lui peut nous satisfaire. Notre satisfaction vient d'être avec son peuple. Notre satisfaction est de toucher du ciel et être touché par lui. Le monde, on est tout quelque chose, je vais juste noter, c'est juste une parenthèse. Quand j'étais plus jeune dans ma foi, je peux passer beaucoup plus de temps devant des choses un peu banales, un peu vides de la vie. Et je n'ai pas réalisé que petit par petit, comme avec Jésus quand il avait 12 ans, sa famille est partie, en fait. Ils n'ont pas réalisé que Jésus n'était pas avec l'entourage. Donc, ils ont retourné pour chercher lui et il était dans le temple en train d'écouter et répondre les questions. Et donc, ils ont réalisé après un certain temps que Jésus était absent. Et nous aussi, notre application est que nous, quand on était, premièrement, quand on était peut-être le début de notre conversion, on peut substituer, on peut avoir une vie avec une multitude de choses. Et on va arriver dans un moment où on va dire, mais j'ai besoin de boire, j'ai soif. Maintenant, ce n'est pas une question des heures, c'est une question peut-être des minutes. Et on veut dire, j'ai soif. On a fait un matin de dévotion. On partit et on est en train de faire des choses qui ne sont pas des péchés, mais des choses qui sont peut-être un manque, un vide, une absence de la vie. Et on peut dire, Seigneur, j'ai soif de nouveau. J'ai besoin de toi. Et le temps entre les deux diminue. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas aller si loin parce qu'on sait au bout de nos cœurs, on a besoin de plus en plus de lui et parce que le monde nous vide, on est vidé par ce monde de plus en plus, avec un royaume opposé à nous. Et donc, évidemment, quand on marche sur la terre, on va être vidé rapidement par les autres choses. Si on s'endort maintenant, peut-être pas maintenant, mais midi, on est en train de marcher dehors. Pas de crème de soleil, pas de l'eau. Combien de temps si on marche dans un endroit exposé au soleil, on va continuer de marcher bien et on va pas tomber dans le pomme. C'est le même avec le Seigneur parce qu'on est des éléments qui enlèvent la vie et on a besoin de lui. Donc on cherche mais on trouve pas parce qu'on sait qu'il est quelque chose de mieux. Je ferme la parenthèse de la dernière chose que j'ai dit. Prochain point. On est point numéro 6 ici. J'aime le chant. Le quoi devant moi, le monde derrière moi. No turning back, je ne tourne pas en arrière. Je ne tourne pas en arrière. C'est comme je vois qui est devant moi. Et en fait, le fait qu'on on regarde devant et on ne laisse rien en arrière, c'est la clé, c'est verset 15. Si on commence à imaginer les choses, s'ils avaient en eux, en vous, les choses qu'ils ont sautées, il va retourner en arrière. Cortés, dans le à Mexique, en Mexique, quand il arrive, il a traversé l'Atlantique. Cortés, il était un conquistador dans le 15e, le 16e siècle, Cortés. Et Alexandre le Grand, quand il a passé et arrivé en Turquie, c'était toute cette partie était occupée par l'Empire perse. Le 2, avec ses armées, le moment où ils ont arrivé sur la terre, conquest, ils ont brûlé les bateaux. Aucun retour en arrière. Afin que les soldats, les armées, vont être totalement focalisés de lutter et de combattre avec 100%. Nous avons brûlé les choses en arrière. Quelles sont les choses qu'on peut brûler en arrière? Je pense à ça. Peut-être des anciens livres, peut-être des anciens mémoires de passé, peut-être des choses qui peuvent nous attirer. Je ne sais pas, livres, je ne sais pas. J'ai pas mal de vidéos VHS, les films, tout ça, peut-être tout ce qui peut nous connecter avec notre passé. Parce qu'on ne veut pas retourner. Comme Jésus a dit, il a dit en Luc chapitre 17, verset 32, souvenez-vous la femme de Lot. Remember Lot's wife. C'est un verset tellement court, mais on ne retourne pas en arrière. On ne regarde pas en arrière. C'est facile parce que oui, on voit beaucoup de choses qui nous attirent dans la direction arrière, mais on dit, on va brûler ça, c'est fini. Parce que maintenant, je dois aller, je dois avancer. Ma destin est devant moi. Et le salut approche beaucoup plus qu'avant. La nuit a passé, le jour approche et ma délivrance avec le Seigneur approche. Point numéro 7. Et ça, je vais terminer avec ça. C'est le dernier point. Un meilleur, quelque chose de meilleur. Verset 16 de le même chapitre. Mais maintenant, ils ont désiré un meilleur patrie, en fait, un meilleur pays, en anglais, dans la version King James. Ça veut dire un céleste. Le meilleur est devant nous. Le commencement était bien, mais le fin est beaucoup plus glorieux. Et Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Verset 1? J'aime ça. Le jour, c'est parti B, le jour de la mort que le jour de la naissance. Ça veut dire mieux. Vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Pourquoi le jour de la mort? Parce qu'on va entrer dans la promotion, exaltation de Jésus-Christ. Promotion ultime à la gloire. Et le commencement était bien, mais la fin est la meilleure. Donc, devant nous, nous avons des saisons. On est en train d'apprendre quelque chose. On commence bien. notre salut et on est beaucoup enthousiaste. On court, on fait des choses, on chante. Notre vie est complètement bouleversée. Après un certain temps, ce début a fini. On est dans une autre saison. Des choses commencent à être un peu plus ordinaires dans la vie. Pas ordinaire en réalité, mais nos émotions ne sont pas si bouleversées comme avant. Mais si on voit juste le début et on peut avoir la nostalgie, les choses sont mieux, ils ont été mieux dans le passé que maintenant. Faux. On est en train d'être transformé. À la fin, les choses vont être beaucoup mieux. Pour les peuples d'Israël, ils ont dit, oh, Égypte, c'était magnifique, on est dans le désert maintenant, nous avons le manne, c'est tout. Mais dans le passé, on a mangé l'ail, on a mangé le concombre, on a mangé des oignons, on a mangé les poivrons. Super bon pour la haleine, bravo. Mais c'était la galère. Ils ont oublié, c'est la galère. C'est comme ça. Et donc, ils ont oublié que c'était le travail. Mais maintenant, devant nous, la chose la plus glorieuse. Et on attend pour cette fin qui va être glorieuse. On a une expression en anglais. We're going to go out with a bang. Ça veut dire, comme dans... une pièce de théâtre. Nous avons la fin avec quelque chose d'un spectacle et le magicien fait le meilleur trick de magie, le meilleur tour de magie. Il fait quelque chose et le climax, bouffe, et quelque chose de spectaculaire. On va partir et ça va être spectaculaire parce que si c'est un enlèvement, ouf, imaginons. Tout ce qui va passer, ça va être glorieux. Si ce n'est pas l'enlèvement, ça va être glorieux parce que John Wesley, il a dit, en train de mourir, le meilleur, j'oublie exactement ce qui... And the best of all, and le meilleur que Dieu est avec nous. Le meilleur Dieu, et il est avec Dieu. Et il a laissé une trace. Et pourquoi que c'est le meilleur pour nous? Parce qu'il a premièrement réservé une place pour nous en Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Il a préparé une place uniquement pour nous. Ce n'est pas comme on arrive dans un restaurant. Ah, désolé, la réservation est annulée, quelqu'un a choisi. Non, il a réservé et personne ne va bloquer la réservation. C'était notre maison, c'est notre patrie, c'est préparé pour nous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en Apocalypse chapitre 21, et je suis proche à finir, donc n'inquiète pas, je vais arrêter dans quelques minutes. Il essuiera toute l'âme, Apocalypse 21, verset 4, de leurs yeux, donc pas de larmes. Et l'amour ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Kalish, première chose en disparu. Pas de douleur. Douleur de la travail lourd à cause de la chute et la malédiction sur Adam. Le front de son transpiration de son front. Un travail qui est tellement épuisant. Ça, c'est fini pour l'éternité. Pas de deuil. Deuil, pourquoi? Parce que le mot a existé et une séparation. Pas de la mort n'existe plus. Ça veut dire aucune séparation, aucune. On ne va pas agir. C'est jamais être là. Donc, on ne va jamais voir un tombeau. On ne va jamais voir, on a visité en Angleterre un cimetière et on a vu les gens écrits sur les tombeaux. Voilà. Quelqu'un qui a vécu cet âge, jusqu'à cet âge, sa femme et son enfant, tous dans le même cercueil. Et on dit, waouh, la vie est éphémère, tellement éphémère. Ça finit pour l'éternité. Disparaître, disparu totalement. Et la chose la plus glorieuse, il va être avec nous. Ça, c'est la chose la plus glorieuse. En 1 Thessaloniens chapitre 5, verset 1 Thessaloniens chapitre 4, verset 17, on va être avec lui pour toujours. En Jean chapitre 14, verset 3, on va être avec lui pour toujours. Dans sa présence, il est en plénitude de joie, à sa côté, il est délice pour toujours. Psaume 16, verset 11. Waouh! Sa présence pour toujours et nous n'avons aucune séparation entre lui et nous. Pas de péché, pas de nature pécheresse, pas de choses qui entre nous et lui, aucune séparation. Ça veut dire une onction tellement énorme. On ne peut pas imaginer ça sur la terre. Et donc, pour conclure, et c'est mes dernières paroles, Hébreux chapitre 13, et ça c'est dans mon cœur depuis longtemps maintenant. Je suis touché par ces versets. Ok, Hébreux chapitre 13, en train de parler de Jésus. Il est crucifié dehors de la ville, donc dehors de la camp. Et verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, donc hors de la camp, hors de la cité, hors de la ville de Jérusalem. C'est une exhortation maintenant par l'autre d'Hébreux. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son honte. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui a à venir. Et ça, c'est notre dernier mot. Que Dieu vous bénisse.